Le premier sondage pour les municipales à Paris est tombé ce matin. Un sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio. Un sondage qui met Anne Hidalgo largement en tête si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Juste derrière Benjamin Griveaux, 17%. Cédric Villani, 15%. Rachida Dati, LR, mais qui n'est pas déclarée candidate, 14%. Les Verts de David Belliard, 13%. Suivent ensuite la France Insoumise avec 5% et le Rassemblement National avec 4%. Le premier sondage pour les municipales qui met Anne Hidalgo largement en tête, alors que quand on parle avec les gens dans la rue, tout le monde en dit du mal. Est-ce que c'est pas un peu surprenant, Isabelle Saporta?
Écoutez, je ne sais pas si c'est surprenant, étant donné que les voix La République En Marche sont divisées en deux. On voit bien que là, c'est au fond ce que faisait Macron aux européennes, à peu près 30%. Donc, c'est ce que faisait
là,
l'Oiseau.
Ça fait 32.
Donc voilà, donc, moi je ne trouve pas ça très étonnant. On voit quand même que Hidalgo perd 10 points par rapport à 2014. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du rejet. Maintenant, on est au tout début de la bataille. Donc si on commence à regarder les sondages maintenant, vous savez, les sondages, généralement, au tout début, ils créditent toujours les outsiders de très très peu de points et ils confirment les gens qui sont dedans, donc voilà, pas très étonnant, je trouve.
Et pour vous, Corinne Tapiero, 24%, vous êtes d'accord?
Oui, je suis
avec
d'accord,
Isabelle Saporta, quand j'ai dit il y a comme 10 points de moins qu'à l'époque.
Cela dit, il y a toujours un engouement dans les sondages pour celui qui arrive en tête, mais moi je constate quand même qu'il y a 76% des Parisiens qui rejettent sa politique, donc il y a quand même une véritable indication. Parce que si elle avait une action extraordinaire, l'arrivée de Villani, Griveaux, n'importe qui n'aurait aucun impact. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai manque de proximité avec les Parisiens, il y a une incompréhension de sa politique. Après, effectivement, on est tout début, Rachida Dati est candidate à la candidature, la commission d'investiture ne s'est pas encore réunie. Donc on attend les résultats, mais pour ça, il faut attendre l'élection du président des Républicains.
Oui, il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot. Ça va arriver bientôt, dans 15 jours, un mois, c'est pris.
Tout vient à point à qui sait attendre. Rodrigo Arenas, quel regard vous avez sur Anne Hidalgo à Paris?
Nous, en fait, une fédération de parents, on n'est pas partisans, on a juste à commenter simplement les programmes.
Et en voyant ce sondage, vous êtes surpris ou pas?
On n'est pas très surpris, ça représente un peu aussi ce qu'on a dans des fédérations, c'est-à-dire de parents ou autres, c'est-à-dire des parents qui sont un peu partagés sur ce que disent les uns les autres, aussi un peu de défiance qui est en ligne de compte qu'on va dans les conseils d'école, par exemple, ou les conseils d'administration des établissements, entre les annonces programmatiques qui ont lieu à chaque échéance et les mises en œuvre après qui se passent au niveau des enfants, des fois il y a des gaps, donc on sent aussi ça. Aujourd'hui, il y a eu par exemple, Greenpeace a sorti une carte de pollution sur Paris, on voit bien que dans les écoles c'est compliqué, et puis Paris, c'est pas que Paris, c'est aussi toute la région Île-de-France. Comment est-ce qu'on va faire avec ces enfants qui aujourd'hui, dans certains établissements, n'ont pas le compte pour pouvoir, atteindre leur réussite scolaire et que les moyens soient disponibles. C'est-à-dire qu'il faut sortir à un niveau, à un moment donné, des centres hyperurbains, mais ça se pose à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, dans toutes les grandes villes, pour essayer de rompre avec les ruptures territoriales qui existent et le fait que certains établissements ou certaines écoles soient moins bien dotées que d'autres. Il faut en fait mettre du droit commun et qu'un enfant, quel que soit le territoire dans lequel il habite, quelle que soit la famille dans laquelle il est né, il ait accès aux mêmes moyens pour pouvoir réussir leur scolarité.
Et c'est là, surtout l'État, ça. Hein, c'est surtout la responsabilité de l'État en termes de moyens, puisque la commune et le département n'ont que l'entretien des bâtiments, le périscolaire et la cantine. Donc,
c'est déjà pas mal.
Ce qui interpelle à Paris au niveau des écoles, c'est quand même la baisse des effectifs qui est extrêmement importante et historique. Oui. Donc il y a quand même eu énormément de construction d'écoles.
On a mis 400 élèves en moins cette année à Paris. C'est pour ça,
votre sondage, en fait, il faut sortir du parisianisme. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a un vrai problème sur les questions du sexisme et d'égalité homme-femme. Mmh. Et aujourd'hui, les politiques volontaristes qui sont mises en œuvre sur ces questions-là viennent du conseil départemental. Mmh. Donc Paris a une particularité, c'est qu'elle est à la fois commune et départementale.
Oui,
mais quand vous sortez de l'extérieur, les collectivités territoriales, régions, départements et communes ont un grand impact sur les écoles, contrairement à ce qu'on croit, parce que la politique nationale, l'État dont vous parlez, en fait, se décharge de plus en plus sur les collectivités. Donc il y a un problème de moyens et de répartition, mais dans l'intérêt des enfants.
Il y a une question que vous voulez.
Moi je trouve que le fait que Paris se vide de ses familles et de ses enfants et de ses collégiens et
à 10 000 euros le mètre carré, c'est moyennement
La contrainte du logement qui est complètement hallucinante à plus de 10 000 euros du mètre carré, enfin du coup on a quand même des écoles qui se ferment, des classes qui se ferment, enfin comme dans nos villages de France, donc ça je trouve ça dramatique. Et par ailleurs, vous avez tout à fait raison, moi je pense qu'il faut que Paris se ressaisisse, puisque nous sommes effectivement à la fois une municipalité et un département de toutes de tous les leviers pour inclure les enfants et notamment la cantine. Moi, je vais vous dire, j'ai rencontré des mamans et des papas du 18e arrondissement qui se rendaient compte que, en fait, dans le 18e, le maire a laissé la cantine en délégation de service public à Sodexo. 14 000 gamins qui mangent de la merde tous les midis. Pardonnez-moi d'être grossière. Hein, pour 70 centimes de plus le repas que partout ailleurs dans Paris. Donc, si vous voulez, on a un vrai problème pour moi. Aujourd'hui, il va falloir extirper les lobbies qui sont un petit peu partout, et au niveau étatique, et au niveau municipal, parce que comme par hasard, ce sont les gamins qui sont dans les quartiers populaires, qui mangent le moins bien, alors qu'il y a une fracture alimentaire en France, et que quand vous êtes enfant de cadre, vous avez deux fois moins de risques d'avoir des enfants obèses que quand vous êtes enfant de classe populaire.
Corinne Tapion.
Alors bon, sur la cantine, c'est un vaste sujet. Moi, c'est un sujet qui à la fois me passionne et m'irrite. D'abord parce qu'à Paris, le repas de cantine varie de 13 centimes à 7,50 euros, selon le quotient familial, qui est quand même...
Ce qui fait quand même un gros écart.
Oui, bien sûr.
Ce qui fait un gros écart, et qui n'est nullement justifié par une qualité de nourriture ou quoi que ce soit.
Non, je suis d'accord, il faut tout.
Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Après, moi, je suis très interpellée quand on nous dit c'est le repas de cantine, c'est le seul repas que les enfants prennent à l'école. Moi, je dis que si on est certain de ce constat et qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont en grande difficulté alimentaire, on a une très lourde responsabilité parce que dans le meilleur des cas, ils prennent 170 repas par an à l'école. Donc, il y a quand même un vrai questionnement. Ça veut dire que sur les 730 repas de l'année, on a l'État et les collectivités ont une lourde responsabilité morale. Déjà.
C'est vrai que ça doit être gratuit.
Vous êtes bien sur Sud Radio.
C'est un problème de gratuité.
Il est pile 9h15. Vous êtes le dimanche 15 septembre. Ce débat, le débat du week-end, en compagnie d'Isabelle Saporta, Corinne Tapiero et Rodrigo Arenas. Pardon. On le continue dans quelques instants. Retour du débat du dimanche sur Sud Radio en compagnie d'Isabelle Saporta, journaliste et candidate à Paris sur la liste de Gaspard Ganzer, Corinne Tapiero, élue de Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et notre ami Rodrigo Arenas, président de l'AFCPE. Dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, le premier sondage sur les municipales à Paris, on va extrapoler au niveau national pour ne pas rester parisien. Griveaux 17%, candidat officiel, Villani 15%. Est-ce que vous pensez, Corinne Tapiero, qu'ils peuvent s'entendre? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça prouve que LREM peut gagner des grandes villes en mars prochain?
Je pense que s'entendre, j'y crois pas trop, parce qu'ils sont allés quand même très très loin dans la critique.
C'est les Tibéri et Séguin d'il y a quelques années.
J'ai l'impression que c'est pire. J'ai l'impression que c'est pire, d'abord parce que chacun a engrangé des soutiens de bords tout à fait hétéroclites et d'horizons parfaitement différents. Donc je ne les vois pas s'entendre, cela dit. Ils peuvent aller voir un conseiller conjugal, ça peut peut-être marcher. Mais moi, je pense que ça augure...
Soyez pas sexiste, Madame Tapiero.
Ah non, justement.
C'est pas sexiste.
Justement, elle n'est pas sexiste. Elle est post-MeToo totalement, là.
Non, mais j'attendais la dérive.
Excusez-moi. Ce que je constate, c'est que ce sondage peut effectivement donner des ailes à toutes les dissidences LRM en France. C'est une évidence.
Ça coince
d'abord
Macron.
Parce que il, déjà au sein de LRM, et on le sent depuis un certain temps, il y a une contestation de ce pouvoir vertical. Je pense que pour eux, c'est l'occasion jamais. Après, il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Ce sont des gens qui n'ont jamais brigué aucun autre mandat local. Et je trouve que c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est très mégalo de se projeter en tête de liste à chaque fois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Rodrigo Arenas? Cette guerre, ils sont capables de s'entendre ou pas? Parce que Corinne Tapiero, vous connaissiez bien Philippe Séguin.
J'ai fait la campagne.
Vous avez fait la campagne pour eux. Elle dit que c'est encore pire. Alors,
j'ai
là,
fait
vraiment,
la campagne de Jean-Pierre.
C'est digne de Balladur Chirac ou de Rocard Mitterrand.
Alors moi, j'ai pas connu Philippe Séguin, sauf ce qu'il disait, et voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans toute cette histoire-là, c'est la question de la transgression. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de rupture dans notre pays, on le sent bien au niveau de l'école, que de plus en plus, il y a des ruptures qui se mettent en place, ancien monde, nouveau monde, etc. C'est-à-dire ceux qui préfèrent, c'était mieux avant, ceux qui pensent qu'ils sont inscrits dans le monde, etc. Et on a quand même un candidat, en l'occurrence Cédric Villani, qui s'inscrit comme dans l'aîné du président de la République, c'est-à-dire qu'il transgresse des règles de la politique qui sont les règles instruites, traditionnelles, on décide dans une organisation, etc. Et personne ne bouge. Et là, pour le coup, je trouve que ça correspond bien avec ce qui s'est mis en place. La question qui m'interroge, moi, c'est quel impact ça va avoir sur les enfants. Moi, je suis un père de famille. Si je donne des règles de fonctionnement à mes mômes, mais qu'on fait ça à l'école, comment est-ce qu'à un moment donné, on va dire « Ouais, mais tu vois, le président et puis les candidats, en fait, ils s'en fichent un peu des règles. » Donc, je ne dis pas que les règles sont bonnes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on donne ce signe-là qu'on peut changer les choses. La question, c'est les changer dans quel sens?
Mais
la question, c'est le sens et la perspective qui m'intéresse.
Isabelle, ça porte là. Quand on regarde ce sondage, La France Insoumise, Daniel Simonet, 5%. Serge Federbusch, soutenu par le RN, 4%. C'est-à-dire que des partis qui font minimum 30% au niveau national font 9% pour Paris. Est-ce que ça prouve pas que Paris est une ville totalement déconnectée du reste de la France aujourd'hui ?
Ça prouve en tout cas qu'effectivement le mouvement...
Les gagnants de la mondialisation contre les perdants.
C'est le mouvement des Gilets jaunes. Ben c'est voilà. Le mouvement des Gilets jaunes. C'est sûr qu'on retombe toujours là-dessus. Il y a la France, au fond, métropolitaine, des grandes métropoles, et la France rurale de la Diagonale du Vide qui se sent parfaitement abandonnée. Moi, c'est vrai que je regardais récemment les frondes qui se font un petit peu partout en France pour lutter contre les fermetures de trésoreries. C'est-à-dire que les gens en sont réduits aujourd'hui à dire « Mais au moins, pour payer mes impôts, je veux un interlocuteur, je veux quelqu'un à qui parler. » Quand on voit qu'il y a des fermetures de guichets de banque un petit peu partout, les maternités, les hôpitaux,
les bureaux de poste,
les transports en commun. C'est-à-dire qu'à chaque gare qui se ferme, le vote RN explose. Et vous ne pouvez pas dire à nos concitoyens qui ont l'impression que les services publics s'éloignent en permanence que tout va très bien, ouais, Madame la Marquise.
C'est pas une impression.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas une impression. Les services publics s'éloignent et on fait comme si tout allait très bien. Bien sûr que ça ne va pas bien. Bien sûr que c'est aussi, vous voyez, on retombe sur toutes les problématiques nationales, par exemple sur la question des urgences. Moi, j'entends notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dire de culpabiliser les gens qui sont malades et qui vont aux urgences en disant c'est honteux, faut pas y aller. Si on est passé de 9 millions à un peu moins de 10 millions de personnes aux urgences en 96 à plus de 21 millions aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que juste tout le reste s'est désertifié. Il y a les maternités se ferment, les hôpitaux de proximité se ferment, il n'y a plus de garde de nuit. Et donc, à part culpabiliser les gens, on n'apporte aucune solution concrète.
Corinne Tapiero, les partis dits populistes, 9%, alors qu'en France, ils ont fait 40% au premier tour de la dernière présidentielle. Est-ce que ça prouve pas que Paris est un îlot de gagnants de la mondialisation, un îlot de prospérité dans un océan où il y a malheureusement de plus en plus de misère?
De toute façon, l'ex-RN, enfin le Front National, n'a jamais fait de score à Paris, concrètement. Il a rarement atteint
c'est
les 10%
vrai.
Sur aucune élection. Il n'y a qu'aux dernières européennes
là,
où il a fait beaucoup. Mais c'est le
là,
score.
Mais là, c'est 9 avec LFI.
Oui, mais la France Insoumise, c'était un autre parti avant. C'est-à-dire que ce n'est pas comparable. Et en réalité, la France Insoumise à Paris, elle n'est portée que par Daniel Simonet. Donc Daniel Simonet, c'est une élue du 11e. 20e d'ailleurs, je
20e,
crois.
Oui.
Et est-ce que sa parole porte ? Est-ce qu'elle a su engranger suffisamment de soutien ? Bon, après, je ne suis pas certaine que la classe ouvrière soit
c'est
encore
ça.
Très présente à Paris pour pouvoir s'intéresser au
Paris
discours de Mme Simonet.
Paris Rodrigo se Arredas, vide de ses classes populaires.
Vous qui êtes du 9-3, comme on dit, de la Seine-Saint-Denis, oui. Quand vous voyez ces chiffres électoraux, vous dites on ne vit pas dans le même monde selon qu'on soit d'un bord ou d'autre du périphérique.
C'est sûr que de toute façon, déjà, on ne vit pas dans le même monde quand on est en Ile-de-France et quand on est en région. Isabelle Saporta le disait très justement, selon le territoire dans lequel on est, les ruptures sont hyper violentes. Il y a quand même 300 écoles qui ont fermé avec les accords des maires dans la ruralité cette année.
Oui.
Donc on est dans un truc compliqué où les gamins se tapent des 1 heure, 1 heure et demie de transport dès qu'on sort des métropoles pour aller à l'école. C'est ça la réalité de la France. Et avec des parents là qui pour la rentrée tirent la langue parce qu'il faut acheter les fournitures scolaires, les baskets, aller chez le médecin, s'inscrire au club de foot, etc. C'est compliqué la France en ce moment. Il y a des vraies ruptures. Et moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à voir un projet dans les candidats parisiens qu'on commence à voir un peu dans la presse, qui sortent de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une dimension métropolitaine. Les solidarités ne s'organisent pas suffisamment pour faire en sorte que les gamins, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en Ile-de-France, ils aient un peu le sentiment d'appartenir à une même région, d'appartenir à une même identité. On manque de sens. Et là, nous, on voit bien, puisque vous parlez de la Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, d'une certaine façon, la banlieue, là où les Hauts-de-Seine, c'est la banlieue aussi de Paris.
Oui.
Il y a plein de gamins dont les parents les inscrivent dans le privé à Paris ou les font prendre le métro ou dérogent aux cartes scolaires parce qu'ils pensent que dans leur territoire, en fait, l'avenir de leur gamin est compromis. C'est ça l'enjeu de Paris, c'est de vivre à une plus grande échelle.
Dernière question à Corinne Tapiero et Isabelle Saporta, qui sont à Paris candidates et élues. 1% pour Gaspard Ganzer. Le combat continue, Isabelle
Saporta.
Ah
ben oui, bien sûr. Bah écoutez, ça prouve qu'on a une marge de progression inouïe, non ?
Et 14% pour Rachida Dati.
Bah moi, je trouve que c'est un très bon score dans la mesure où elle n'est pas déclarée candidate. Et j'espère que ce sondage va peut-être mettre un peu de plomb dans la tête, un plomb imagé, bien sûr, de tous ceux qui jouent les traîtres à Paris depuis 2001.